Bonjour, c'est la troisième leçon du cycle qui voudrait répondre à la question « Y a-t-il eu littérature juridique romaine ?» Le cas de cet après-midi est le cas du juriste historien. La relation entre le droit et le temps est en chassé-croisé incessant, un combat sans vaincu ni vainqueur. Il faut reconnaître l'historicité du droit, mais aussi prendre en compte la condition de atemporalité revendiquée par les normes juridiques. En tant que phénomène social, technique, intellectuel, qui a pour fonction de gouverner un concret groupe humain, le droit est plongé dans la dynamique historique. Il évolue selon l'équilibre changeant du pouvoir et selon la façon mobile dont on envisage l'intérêt commun. Les conseils mêmes par lesquels les juristes pensent le droit sont affectés, quoique bien plus lentement, par les transformations culturelles. Il s'agit d'un énoncé aussi banal que vrai que je crois tout historien du droit partage. Cependant, on voit à l'œuvre un autre facteur, moins considéré, mais tout aussi puissant. Le droit aspire à une condition de atemporalité. Les normes visent à donner l'ordre à la société, et l'ordre, par définition, doit être durable. La norme est un projet que hier impose à aujourd'hui. Pour remplir sa fonction, le droit doit s'opposer au mouvement de la société. D'un autre point de vue encore, celui de la légitimation, le droit nécessite de se mettre à l'abri du souffle du temps qui, sans relâche, refaçonne le visage du monde. La question était cruciale pour la philosophie grecque. Et Aristote est venu à cette conclusion. L'innovation dans les lois est tout autre chose que dans les arts. La loi, pour se faire obéir, n'a d'autre puissance que celle de l'habitude. Et l'habitude ne se forme qu'avec le temps et les années. De telle sorte que changer légèrement les lois existantes pour de nouvelles, c'est affaiblir d'autant la force même de la loi. Cette diagnose d'Aristote dans la politique, de celle, une des raisons, de la crise juridique actuelle, la vitesse de transformation de la société, qui nécessite des changements compulsifs des normes, a érodé la légitimité de la loi fondée sur la stabilité. Mais il y a aussi une troisième ligne de résistance que le droit oppose au passage du temps. Le droit considère qu'il entretient une relation spéciale avec la justice, ou, plus précisément, avec l'équité prise au sens strict de critères qui interdit à l'un de s'enrichir au détriment de l'autre. Si le droit vise à correspondre à des principes toujours valables, par conséquent, il se prétend lui-même immuable, comme dans cette définition conçue par le juriste Paul. Ce qui est toujours équitable et bon s'appelle le droit. L'adverbe « semper », toujours, se situe à l'opposé de l'historicité. Cette dualité, la tension entre la temporalité et la temporalité, est l'une des clés de lecture les plus subtiles et moins exploitées pour s'ouvrir la compréhension de la littérature juridique romaine. Bien sûr, lorsque nous feuilletons les pages des juristes, c'est la atemporalité qui affleure. Ulpien, préfet du prétoire décédé en 223 après Jésus-Christ, instaure un dialogue avec Quintus Mucius Scaevola, le consul de 95 avant Jésus-Christ. Sans doute, les juristes plus récents sont conscients de cette distance chronologique et parfois ils soulignent le décalage. en appelant leurs prédécesseurs républicains par les noms collectifs de « veteres », les anciens. Mais c'est juste une distance chronologique qui n'implique pas une différence au point de vue de la méthode ou des valeurs. L'espace littéraire institue un présent permanent dans lequel l'élaboration du droit avance par une discussion toujours ouverte où chaque opinion est évaluée à la lumière de sa rationalité, non pas de son âge. C'est sous l'influence de cette impression que Fritz Schulz a affirmé que les jurisconsultes romains nourrissent une obstinée aversion pour l'histoire. Nous pouvons opposer à ce verdict injuste le portrait emblématique que Olugel trace de Alphénus, le consul de 39 avant Jésus-Christ. Selon Gel, on peut le lire sur l'écran, Alphénus était rerum antiquarum non incuriosus, pas un curieux du passé. Par exemple, il se prononce sur la signification d'une expression argentum purum putum, qui se trouvait dans un ancien traité conclu entre les Romains et les Carthaginois. Il insère les résultats de son enquête étymologique aussi dans ses digestes, donc dans un ouvrage qui avait certainement un bout pratique. L'intérêt pour le passé était cultivé par Alphénus au cœur même de sa profession. Mais il ne s'agit pas d'un penchant subjectif et solitaire. Il suffit de calculer que dans ces instituts, Gaius utilise 31 fois l'adverbe temporel « olim », « jadis », avec la fonction de décrire une situation juridique antérieure, généralement située à l'époque des 12 tables, qu'il compare avec l'actualité. Donc, 31 petits tableaux du passé juridique enchâssés dans son exposé du droit en vigueur. Ces deux exemples, en plus de nous montrer que les jurisconsultes romains possédaient certainement une conscience historique, servent également à mettre en valeur un autre point crucial qui avait échappé à Schulz. Soit les passages d'Alphénus qui se penchent sur les traités entre Rome et Carthage, soit les instituts de Gaius sont deux textes qui nous sont parvenus hors du digeste de Justinien. Ce n'est pas par hasard, car les compilateurs du digeste ont systématiquement éliminé les passages liés à des thèmes historiques, fidèles à l'instruction donnée par Justinien, qui voulait s'en tenir à une synthèse du droit en vigueur. Donc, le miroir du digeste nous rend une image déformée, dépourvue de la profondeur. Une raison en plus pour que tout indice qui a survécu de l'intérêt des juristes pour les passés soit considéré avec soin et respect. La recherche sur ces questions est encore à ses premiers pas, en dépit des deux contributions majeures de Carlo Alberto Maschi et de Dieter Neur. C'est un sujet duquel je m'occupe depuis quelque temps, qui s'étend non seulement à la façon dont les juristes ont vu les passés, qui est le thème de ma conférence, mais plus généralement embrasse la façon dont Rome a construit l'histoire de son droit. Et l'invitation généreuse de John Scheid me permet de vous en soumettre quelques résultats et je serai heureux de vos remarques. Afin de s'ouvrir une voie d'exploration, il faut se équiper d'une taxonomie des possibles usages du passé, quoiqu'un peu abstraite. Elle nous permettra de saisir les différents angles selon lesquels les juristes jetaient leur regard à l'arrière. Surtout, elle nous permettra de nous rendre compte que leur conscience historique ne coïncide pas nécessairement avec la nôtre, étant néanmoins une conscience historique. Il me semble que nous devrions procéder sur la base de trois critères, celui de la matière, celui de la fonction discursive et celui de la perspective. Pour ce qui est de la matière, ce qui compte est bien sûr de savoir si les juristes se sont intéressés à l'histoire du droit. Peu importe, en revanche, s'ils se sont voués d'autres phénomènes du passé. Nous savons, par exemple, que certains d'entre eux ont écrit des véritables œuvres d'histoire politique et militaire, des res geste. À l'époque républicaine, c'est le cas de Lucius Caelius Antipater, de Publius Rutilius Rufus, de Quintus Aelius Tubero, pour ne rien dire de Caton et de Publius Mucius Scaevola, les rédacteurs des Annales des Pontifes. Ce cas confirme que la profession de juriste n'était pas incompatible avec un regard à l'arrière, mais ils ne sont pas pertinents pour notre discussion. Tout au plus, nous serions intéressés de savoir si dans leur travail d'historien, ces auteurs ont été influencés par leur métier de juriste, par leur culture juridique. Cependant, les fragments qui ont survécu sont si minces que chaque déduction risque de sonner artificieuse. Prenons le cas le plus important de ces juristes écrivains d'histoire, celui de Lucius Caelius Antipater, qui a dû naître aux environs de 170 avant Jésus-Christ. Son ouvrage historique en sept livres est le premier, comme l'affirme Martin Chassigné, à ne pas remonter jusqu'aux origines de Rome et à se limiter au récit d'une brève période chronologique, les 18 années de la guerre contre Hannibal. L'ouvrage est dédié au grand marien Lucius Aelius Stilo, qui fut un commentateur, entre autres, des 12 tables. Selon Cicéron, quant au style, Antipater a possédé un peu plus de souffle que ses prédécesseurs. Peut un juriste croire vraiment que l'issue d'une bataille soit décidée par des tremblements de terre par lesquels plusieurs places fortes furent détruites et les fleuves rébroussèrent leur cours et la mer pénétra dans le fleuve? C'est l'opinion justement d'Antipater selon laquelle Caius Flaminius, pour avoir négligé les scrupules religieux, tomba auprès du Trasimène, causant ainsi une grande blessure à la République. À propos de la mort de Marcellus, toutefois, Antipater exerce une soigneuse critique des différents axes de la tradition et n'hésite pas à communiquer les fruits de sa propre enquête et de ses découvertes, et pour cela, il remporte le louange de Tite Live. Ce souci d'établir la vérité des faits paraît plus en général faire de son ouvrage une véritable césure dans la tradition historiographique romaine. Antipater semble attentif aussi aux changements institutionnels. Il souligne que Quintus Fabius Maximus fut le premier dictateur élu par les peuples. Et encore que pour la première fois, dans un désastre public, je cite, on rendit grâce individuellement, nominativement, à faveur du consul Varron, qui n'avait pas, nonobstant la défaite des Cannes, pensé à la paix. Pourtant, ce sont des traces trop impalpable pour en tirer qu'Antipater pratiquait une histoire teintée de droit. Et il faut aussi rappeler que l'historiographie romaine fut en général très sensible à une représentation en termes institutionnels de son passé, surtout des époques plus éloignées. Donc ce n'est pas une caractéristique seule d'un historien juriste. Il faut à ce stade rappeler que l'histoire politique confinait de tout près avec les antiquités, le souvenir de coutumes et d'institutions divines et humaines qui à leur tour sont limitrophes du droit sacré et du droit public, des sacerdoces, des sacrifices, des magistratures. C'est un terrain exploré par Mario Bretone et par Claudia Moatti qui a bien vu que la crise spirituelle de la fin de la République un appel à la science pour reconstituer son image en train de s'évanouir. Les juristes étaient au premier rang dans cet effort réactionnaire. En ce qui concerne les institutions religieuses, le juriste Servius écrit de Sacris Detestandis, Trebatius de Religionibus, l'abéant un traité de droit pontifical, d'autant fait Capiton, et en outre il écrit de Iure Sacrificiorum. Dans le domaine du droit public, on sait bien que Junius Congus Gracchanus avait amassé une mine d'informations à propos de l'histoire des magistrats, et ainsi Sempronius Tuditanus, Pomponius enfin, a tracé une esquisse sur l'origine et les titres des magistrats. Rien que pour ce type de travail, les juristes dévoilent leur sensibilité vers le passé. Cependant, dans la conférence d'aujourd'hui, nous nous bornerons au droit privé. Donc, c'est là pour ce qui concerne la matière. Il faut aussi dire que le choix du droit privé a deux raisons. La première, c'est que je désire de montrer le recours que les juristes font à l'histoire dans leur travail propre. Et la deuxième raison est qu'il y a très peu de fragments qui survivent des ouvrages que vient de mentionner dans le champ du droit public et du droit sacré. Donc c'est un choix qui a deux raisons d'être. Tournons maintenant notre attention à la fonction que les juristes attribuent au renvoi qu'ils font au passé. C'est un passage de Gaius retenu dans le seul titre à contenu historique du Digeste, le deuxième du premier livre, qui nous offre la définition la plus explicite de l'attitude d'un juriste envers l'histoire. Il s'agit de la préface de son commentaire sur les 12 tables, où Gaius explique qu'avant d'interpréter cette ancienne loi, il a cru de devoir rappeler les commencements de la ville de Rome, et il explique ainsi le sens de sa démarche. « Il me semble, dit-il, que ces préfaces nous excitent plus volontiers à la lecture du sujet choisi et que lorsqu'on arrive à les traiter, elles servent souvent à nous en donner une plus claire compréhension. » Ainsi, la référence au passé a pour Gaius une double fonction, c'est-à-dire de rendre plus attractif le discours, ce qui a à faire avec le plaisir du texte, mais aussi de clarifier l'objet même du discours, ce qui concerne plutôt la fonction technique. Gaius nous suggère donc de distinguer entre un usage du passé qui puise sa fonction en soi et un usage argumentatif. À ce stade, nous devons enfin distinguer si les juristes ne traitent que de l'origine première d'un phénomène juridique ou bien de son développement successif. Le couple origo processus est bien connu parce que cette coupure temporale entre naissance et développement est à la base d'un manuel bien connu, d'un fragment très connu du Digeste de Justinien, c'est-à-dire le fragment qui est tiré du livre qui s'intitule Inquiridion, qui a été écrit par Pomponius, un juriste du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est une distinction très, très bien connue, mais elle n'a pas encore été mise en pleine lumière, voire souvent elle est mal comprise, car on a la tendance à traiter les deux notions d'une façon indistincte, comme si Pomponius disait, voilà, maintenant le texte, vous l'avez ici, j'essaie de vous montrer originem et processum, comme s'il disait, je vous montre le passé du droit. Mais il s'agit d'un couple de concepts qui sont bien distincts. Alors donc, je voudrais vous proposer une lecture très rapide. Ce n'est pas le texte qui est au centre de ma leçon. Une lecture rapide de la première partie du traité de Pomponius, seulement afin d'esquisser cette polarité. Alors, nous croyons, dit Pomponius, donc nécessaire de montrer l'origine du droit et son progrès. Au commencement, initio civitatis, le peuple romain se gouvernait sans loi certaine, sans droit certain, et les rois conduisaient tout à leur volonté. Ensuite, le peuple s'étant augmenté, poster, ensuite, le peuple s'étant augmenté, Romulus le divisa en 30 parties qu'il appela curie, parce qu'alors il exerçait la cure, la gestion de la communauté par les conseils de ses partis. Il porta ainsi plusieurs lois que le peuple assemblé en curie confirma. Les rois suivants en portèrent aussi. Après l'expulsion des rois par la loi tribunicia, toutes ces lois royales cessèrent d'être en usage. Le peuple commença à se conduire plutôt par un droit incertain et par l'usage que par aucune loi fixe. Et cet état dura près de 20 ans. Ensuite, pour ne plus être dans cette incertitude, il fut décidé d'élire 10 hommes par l'autorité publique, de les envoyer dans les cités de la Grèce pour y demander des lois, afin que la cité de Rome fût renforcée par les lois. Donc, le récit de Pomponius se coupe en deux moments chronologiques, initio poster, au commencement, ensuite. Quand le rideau se lève, on voit le peuple déjà formé sous un pouvoir monarchique. Pourtant, les droits étaient encore dans un état fluide. d'incertitude, les rois conduisaient tout à leur volonté. Ensuite, le peuple s'étant augmenté, le moment devient mûr pour ce que je nommerais un acte d'institution qui prend, comme ça arrive toujours, la forme d'une séparation, d'une ligne qui divise ce qui était confondu auparavant. C'est l'acte de partage du peuple en curies qui déclenche la fondation du droit. Divisé en curies, soumis en forme qui le lève d'une masse indistincte à un sujet politique, le peuple est prêt à voter. C'est ce moment, exactement ce moment, que Pomponius considère l'origine, l'origo du droit romain en sens strict. C'est grâce à la lex, à la loi, que le droit prend naissance. Ce qui suit appartient au progrès, au processus. Donc, il faut tenir bien distinctes ces deux moments, démarquer l'origo du processus. Tous les deux appartiennent au passé, mais à deux couches différentes. Je ne souhaite pas poursuivre le récit de l'origo, sauf remarquer qu'en effet, Pomponius envisage deux origines du droit civil romain, la première étant celle que nous venons de lire, celle qui relève des lois royales, la deuxième étant rattachée aux douze tables. La double origine est due à la césure qui tombe entre l'époque royale et la République, qui conduit à l'annulation des lois royales, une annulation que, il faut le souligner, a eu lieu aussi par une loi, donc le droit à l'origine est strictement lié à la loi, et donc cette coupure rend nécessaire un autre acte de fondation du droit à travers la législation, à travers les douze tables. En tant que telle, cette origine répétée ne fait que confirmer le rôle fondatif de la loi. Pour ce qui concerne le progrès du droit, on peut se demander quelle est la représentation qu'en donne Pomponius. Il ne décrit pas du tout les contenus du droit. Les progrès consistent en revanche dans l'apparition progressive de nouvelles sources de droit. C'est le point d'arrivée ici que je vous montre. Le point d'arrivée demeure dans la liste des sources de droit que Pomponius achève au paragraphe 10 de son bouquin. La loi, avec les deux corollaires de l'interprétation des juristes et des actions de la loi, les plébiscites, les édits de magistrats, les senatus consultes sans loi, les constitutions de princes qui sont observées comme loi, la loi donc ouvre et termine la liste. Donc, le processus, le parcours qui amène dès l'origine, soit des lois, aux constitutions impériales, est, selon Pomponius, une histoire géométrique que Pomponius façonne par le biais d'un critère linéaire, l'expansion progressive de la ville, qui impose la nécessité de réduire le nombre des personnes impliquées dans le processus de législation. Le peuple, de plus en plus démesuré, ne peut plus s'assembler d'ici le passage du pouvoir normatif, d'abord à la plèbs, ensuite au Sénat, pour conclure au prince. En bref, le nombre de législateurs est inversement proportionnel au nombre de citoyens. Certains lecteurs pourraient retracer dans cette représentation la justification du régime impérial, issu d'une nécessité, car, j'emploie les mots de Galba dans le récit que nous a conservé Tacite, car le immensum imperi corpus, le corps immense de l'Empire, ne pouvait plus se tenir debout sans un rector, un régisseur. À l'inverse, l'effet d'insister sur la priorité de la loi et de la souveraineté du peuple pourrait être interprété à l'instar d'une critique voilée que Pomponius dirige au régime impérial. Donc on peut donner une double lecture de ce texte, ce qui démontre la difficulté de déceler des idéologies derrière le texte des juristes. Ce qui est captivant ici, je trouve, c'est que le récit historique de Pomponius, que j'ai essayé en grande vitesse de vous montrer, n'est pas la description floue et tortueuse des événements. Le récit est le produit d'un mécanisme visant à livrer une explication linéaire du système des sources du droit quasiment à rebours, quasiment en commençant par le système des sources et en cherchant d'en voir la généalogie à rebours. Cette rapide lecture de la première partie du récit de l'Enchiridion nous a permis de mieux démarquer les notions d'origine et des progrès, ce qui nous aide dans la lecture des textes des autres juristes. Le rappel de l'origo, du moment précis de la naissance, est plus commun qu'on pourrait le soupçonner. Aussi, en dehors de l'Enchiridion, Servius fait remonter l'origine des garanties pour la restitution de la dot au premier divorce, celui de Carvilius Ruga, au IIIe siècle. Et c'est le même homme, ce Carvilius Ruga, dont la franchise est censée avoir inventé la lettre G. Il commente « Personne, en effet, n'est songé à ces précautions, le divorce étant encore sans exemple. » Je crois qu'on voit très bien là-dessous l'argument rhétorique selon lequel le législateur n'établit pas les sanctions avant que le délit n'ait pas été conçu par les hommes. L'Abéon lit la naissance de l'actio ignoriam, de l'action d'injure, prétorienne, à l'épisode grotesque du cavalier romain Lucius Verasius qui s'amusait à frapper les citoyens qu'il rencontrait dans les rues et paya, séance tenante, aux passants étonnés, l'amende prévue par la loi des 12 tables. Un amusement à bon prix, car l'amende de 25 as était désormais devenue risible, et c'est pourquoi, ainsi termine son récit l'Abéon, les prêteurs introduisirent une nouvelle voie d'action. J'avoue que je suis frappé à mon tour par les efforts des savants qui cherchent à établir les contours plus ou moins réalistiques de ces épisodes. C'est un usage de l'histoire anecdotique qui sert essentiellement à justifier les bien-fondés du changement normatif. Ulpien, enfin, rapporte que le prêteur, par son édit, défend aux femmes de postuler devant lui un homme d'une tierce personne. Car, il dit, il ne convient pas à la pudeur du sexe de se mêler aux affaires des autres et de remplir des fonctions réservées aux hommes. Ulpien ajoute que les importunités et les effronteries d'une femme abominable nommée Carfania furent à l'origine de cet édit. En passage de Valère Maxime nous assure que le personnage était réel, de l'âge de César, et que son nom avait après pris la tournure d'une insulte. Donc, on voit ici que l'anecdote confirme et corrige un peu la ratio, la raison, car une mesure annoncée comme protégeant la pudeur féminine se tourne dans une réaction à la démesure d'une femme. On pourrait avoir la tentation d'exclure ces témoignages du champ historique, mais ce serait perdre de vue la manière dont s'exprimait à Rome l'explication du passé. En effet, chacun de ces récits hésiologiques contient une tentative microscopique de lier le droit au développement de la société. Dans le cas de Carvilius Ruga, le divorce est décrit comme une pratique qui brise l'unité de l'ancienne famille romaine. Dans le cas de l'injure, l'anecdote évoque le problème de la perte d'efficacité des sanctions prévues par les 12 tables à cause de l'inflation et aussi du changement de mœurs apporté par la richesse. Donc, c'était une petite esquisse de la transformation socio-économique du temps des 12 tables au temps de l'expansion méditerranéenne de Rome. Enfin, le texte d'Ulpien, évoquant l'effronterie des Carfania, souligne l'émergence d'une demande de la participation politique des femmes et le rôle qu'a joué le droit pour l'étouffer. Ce sont des explications qui s'appuient, je dirais, sur un répertoire d'anthropologie sociale. Il s'agit d'une lecture morale de l'histoire que nous savons être l'une des principales formes de la conscience historique des Romains. Si le regard des juristes ne manque pas de se tourner vers l'origine, on trouve aussi bien le récit du progrès que nous avons vu dans Pomponius. Par exemple, Gaius retrace l'histoire de la législation qui restreint la liberté de faire testament. Je ne lis pas tous les textes, mais seulement les nœuds principaux. Autrefois, il était certes licite, dit Gaius, de dilapider tout le patrimoine en lex et en affranchissement et de ne laisser à l'héritier que le vain nom d'héritier. Cela paraît autorisé par la loi des 12 tables, qui indique que toutes les dispositions du testament doivent être respectées. C'est pourquoi fut promulguée la loi Furia, en vertu de laquelle il fut interdit, sauf à certaines personnes, de recueillir plus de 1000 âmes à certains de l'ex ou à cause des morts. Mais cette loi n'atteignit pas complètement le but poursuivi. En effet, celui qui, pour prendre un exemple, avait un patrimoine de 5000 âmes, pouvait diluer la totalité de son patrimoine en faisant des legs à 5 personnes à raison de 1000 à chacun. Aussi fit-on plus tard la loi Voconia. Toutefois, un inconvénient presque semblable se produisait. On fit donc la loi Falcidia que nous suivons de nos jours. De quel type d'histoire s'agit-il ? Gaius ne se préoccupe pas d'indiquer les dates de la promulgation des lois, surtout il n'instaure aucun lien entre la réforme de la loi et l'évolution sociale des pratiques de la transmission des biens. La dialectique entre le passé et le présent, entre une loi et la prochaine, est rythmée uniquement par l'imperfection technique jusqu'on franchit la lignée d'arrivée, c'est-à-dire on arrive à la solution efficace. Donc, une histoire tout interne au droit. Ce récit nous rappelle le chapitre que Tacite dédie aux lois sur le mariage, mais qu'il connecte à la nécessité de fixer la corruption de mœurs. Pour Gaius, il s'agit d'une dialectique interne à la technique législative. Donc, cette exploration nous a montré que les juristes incluaient les passés dans leur horizon. Ben, c'est un passé qui tend à se soumettre au droit. Je vous propose maintenant, pour conclure, de regarder de plus près un exemple de cette façon de réduire l'histoire à la mesure de sa propre discipline. Un cas assez particulier, presque unique, nous est offert par Paul. L'œuvre d'où provient ce passage est un commentaire à Plautius, un juriste vécu sous les Flaviens. Plautius, paraît-il, avait dressé un inventaire des opinions qui avaient emporté l'adhésion générale, ne faisant en conséquence plus partie du droit controversé. Une opération pouvant mettre de l'ordre un panorama dans lequel les deux écoles juridiques à leur apogée avaient parsemé la dissidence. C'est peut-être pour cela que l'ouvrage de Plautius a connu un grand succès jusqu'à l'âge de Sévère, lorsque Paul lui dévoue encore un commentaire. Les façons dont Paul intervient sur les textes plus anciens sont plusieurs. Parfois, il se limite à la reproduction du texte de Plautius. D'autres, il les met à jour en rapportant l'avis d'un juriste successif ou d'un empereur. Quelquefois, Paul écrit de sa main des passages entiers. Difficile de dire si les textes sous nos yeux remontent à Plautius ou à Paul. La mention de Lelius Felix, juriste à l'époque d'Adrien, donc postérieur à Plautius, indique assurément qu'il y eut une intervention de la part de Paul. On ne peut pas dire, en revanche, si Paul s'est limité à cet ajout ou bien s'il est l'auteur de l'entier passage. L'ensemble est mis sous l'enseigne du passé. Le premier mot est « antiqui ». Qui sont-ils? Ce n'est pas précisé. Peut-être, en général, les ancêtres, ou plus probablement, les décemvirs, les auteurs de 12 tables. Peut-être encore, mais moins probable, les juristes d'antan, d'un âge incertain, interprètes de 12 tables. L'extrait souligne de façon élogieuse que les ancêtres avait sauvegardé si fortement les attentes de posthume, c'est-à-dire ceux qui, s'il était né du vivant du Père, aurait été sous sa puissance. Donc le posthume, c'est l'héritier potentiel, celui qui, s'il était né du vivant du défunt, de celui qui, dont l'héritage est en question, il aurait été sous sa puissance. Donc son fils, par exemple, les cas les plus simples. Le juriste, sans trop se faire remarquer, applique ici le procédé rhétorique de l'éloge du législateur, la laus legislatoris, utilisé par l'avocat souhaitant mettre en valeur une loi et s'opposant à ceux qui voulaient forcément la critiquer. C'est un lieu commun dans les déclamations mineures de Quintilien. Par exemple, il dit « Nos ancêtres célèbres, ces créateurs célèbres du droit, que donnèrent une forme à une ville et un corps écru grâce aux lois et aux droits. » Dans ce passage écrit par Paul, il y a un renforcement mutuel. La protection du posthume est certainement inspirée par un sentiment d'humanité, donc tout le monde est d'accord que c'était un bon principe. D'autre part, le fait que ce sont les anciens qui ont décidé de l'introduire sert à confirmer la validité de ce principe. Et ce principe de douze tables reçoit une première application. En particulier, dit le texte, les proches qui suivent le degré où est l'enfant qui n'est pas encore né ne sont point admis à la succession tant qu'on ignore si l'enfant naîtra. Comme on le sait bien, mais pour le rappeler, je l'ai déployé sur mon ordinateur, comme on le sait bien, les douze tables attribuaient l'héritage premièrement aux descendants qui étaient sous la puissance du défunt, puis à celui entre les agnats qui était du degré le plus proche au défunt. Les agnats, on appelle agnats les individus qui sont unis par parenté légitime, c'est-à-dire celle qui est créée par les personnes du sexe masculin. Alors donc, pour ainsi dire, le posthume l'emporte sur les héritiers potentiels de degrés plus loin. Dans notre exemple, l'oncle ne peut pas saisir l'héritage tandis qu'on attend la naissance du posthume. Ce principe, cette application a été incontestée. Et l'on comprend donc que la partie introductive du texte de Paul, soit celle qui est placée sous l'enseigne des anciens, n'était pas décorative, mais elle sert à la mise en relief de la ratio, dont le juriste aurait ensuite dû tenir compte afin de résoudre une question disputée. Et la question disputée est aussitôt introduite. C'est le cas du posthume qui concourt avec les descendants de rang égal. Donc ce n'est pas le posthume qui concourt avec son oncle, le fils du défunt qui concourt avec son oncle, mais par exemple le posthume qui pourrait concourir avec son frère, déjà vivant. Donc le père a déjà un enfant et sa femme attend un autre fils, le posthume. Les juristes se demandaient quelle part revient de droit à l'enfant déjà au monde en attendant la naissance de l'autre. Le problème est laborieux à une époque où on ne connaissait pas encore l'échographie, donc ça pourrait être un fait qu'il naisse plus d'un enfant. Ici aussi, le récit est formulé de manière rétrospective. Quasi verunt, il se demandait. Donc, c'est un récit d'une question qui avait déjà été tranchée. En effet, que ce soit Plautius à écrire à l'époque des Flaviens, ou bien Paul à l'âge de Sévère, comme je l'ai dit, on ne peut pas trancher la question, qui est l'auteur du texte dans son ensemble, mais soit à l'âge de Flavien, soit à l'âge de Sévère, la controverse avait déjà été réglée. Comme on l'apprend dans notre passage du Digeste, ce furent Sabinus et Cassius qui avaient tranché la question, donc à la moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, la question était déjà réglée. Mais ici, dans ce texte, la décision nous est racontée dans son devenir. Donc, le texte de Paul atteint de ces faits un troisième niveau historique. Au premier, nous avons les anciens, les 12 tables. Après vient le principe incontesté de la concurrence entre le posthume et les agnats. Nous avons ici le troisième niveau, c'est-à-dire la question qui était encore en cours de discussion pendant le premier siècle après Jésus-Christ. Paul rapporte certaines opinions sur les naissances multiples. À ce moment-là, vous voyez que nam traditum est, on raconte, il y a cette tradition écrite, il reporte plusieurs cas de naissances multiples. Cas plus unique que rare, on retient la source de cette liste. C'est Pline l'Ancien, dans le septième livre de Naturalis Historia. Excusez-moi. Ici. Qui, à son tour, l'avait tiré, selon toute probabilité, de Pompée Troje, l'historien de l'époque augustéen, qui est aussi l'auteur d'un traité de Animalibus, inspiré à Aristote, d'où cette liste est censée provenir. Lisons le texte de Pline. L'exemple des Horaces et des Curias établit avec certitude la naissance de trijumeaux. Un chiffre supérieur passe pour un prodige, sauf en Égypte, où les eaux du Nil sont un breuvage prolifique. Vers la fin du règne du divin Auguste, Fausta, une femme du peuple, qui avait mis au monde à Ostie deux garçons et autant de filles, annonça sans aucun doute la famine qui survint par la suite. On trouva encore, dans les Péloponnèses, une femme qui accoucha quatre fois de cinq jumeaux, dont la plupart vécurent chaque fois. Bien plus, en Égypte, Trogue signale la naissance de sept jumeaux à la fois au cours du même accouchement. L'éventualité d'une comparaison textuelle, il ne semble pas avoir été remarquée, nous permet de mieux pénétrer les mécanismes mentaux qui régissent l'écriture juridique. On voit une différence essentielle dans l'exposition même de la liste. Pour les juristes, il s'agit d'une sorte de bulletin médical devant servir à dresser la statistique sur les naissances multiples. Pour l'antiquaire, en revanche, cette liste tient à faire avec la curiosité. Le point de divergence est visible si l'on compare ces deux phrases. Super inter ostenta ducitur, c'est le texte de Pline. Un chiffre supérieur passe pour un prodige, dit Pline. Car à ces propos, on prête foi à beaucoup de faits aussi discordantes et incroyables qu'on devrait les compter parmi les fables, dit le juriste. Lorsque les faits paraissaient incroyables, l'antiquaire les transforme en signes divins qui, en tant que tels, à leur tour, prennent une dimension réaliste. On voit le récit de Fausta qui annonça la famine. Les juristes, par contre, expulsent les données excessives en les mettant dans les domaines des fables. L'ordre de la liste reflète cette double attitude, cette attitude différente. La liste de Pline est ascendante et progressive et commence par l'exemple des Curiazi et des Orazi. Les juristes placent cette notice à la dernière position. Le texte de Digeste est ici corrompu, on le voit très bien, et toutes les tentatives de correction sont vaines. La comparaison avec le texte de Pline, pourtant, fait en sorte d'assurer que Paul parle ici des Horatii, bien que Vidimus, nous avons vu, apparaît évidemment hors de lieu. À mon avis, peut-être que dans le mot cinctos se cache curiatios. La raison de la position différente de cet épisode à l'ouverture et à la clôture de la liste est évidente. Dans la formulation du juriste, tout ce qui précède est fable. Seul le numéro 3 est crédible puisqu'il peut faire confiance sur la tradition romaine. À ce stade, Paul nous apprend un nouveau fait concernant un accouchement multiple de 5 jumeaux. La source est authentique pour deux raisons, parce qu'il s'agit d'un témoin oculaire et parce que Lelius Félix est un juriste à son tour. Il me semble que cet ordre reflète un précepte rhétorique. Car dans le De Invenzione, Cicéron parle des événements passés auxquels on peut se référer dans l'argumentation qui donne à la cause force de conviction. Il en distingue plusieurs catégories. La première est justement celle des faits qui semblent tellement incroyables qu'ils sont mis maintenant au rang de fables. Les mots de Cicéron, quae incredibilia videantur, utiam in fabularum numero reponantur, sont si proches des mots de Paul qu'on peut soupçonner qu'il avait dans sa mémoire littéraire le texte de Cicéron. Le conseil de Cicéron est accepté, le juriste évoque ces anecdotes pour s'en débarrasser. En deuxième lieu, Cicéron cite les événements qui se sont déroulés il y a longtemps déjà, mais dont nous sommes pourtant convaincus qu'ils viennent d'une tradition authentique, c'est le cas des Horatii. Cicéron ajoute une troisième catégorie de faits qui peuvent soutenir l'argumentation, ceux qui se sont passés récemment, que la plupart des gens peuvent connaître, c'est avec certaines nuances, le cas de la femme d'Alexandrie qui remontait à l'âge d'Adrien et dont Lelius Félix avait été témoin. À ces points, face à faits divers d'un goût incroyable et à nombre varié, le juriste pose une question quasiment désespérée. Quelle solution doit-on donc donner ici? Quid ergo est? Les juristes ne doivent pas enregistrer la nature dans toute sa variété, mais ils doivent plutôt rechercher dans la normalité. Ils doivent prendre une voie médiane. La medietas, le critère, cher Aristote, de la bonne moyenne, permet aux juristes de défaire les nœuds de l'histoire. À son renfort arrive la citation tirée d'un ouvrage perdu de Théophraste. Les successeurs d'Aristote proclament que le bon législateur doit tenir compte de ce qui s'est produit assez souvent, pas de l'exception absolue, de ce qui arrive seulement une fois ou deux. Par conséquent, en rejetant les chiffres trop élevés, les juristes attribuent aux descendants vivants un quatrième de l'héritage, laissant donc place à une possible naissance des triplés. Bien entendu, si c'est seulement un posthume qui naîtra, on va de nouveau partager l'héritage en deux. Et s'il n'y a pas de posthume, c'est l'héritier temporaire qui va avoir l'héritage. Mais en attendant la naissance, ils font, pour ainsi dire, place à la possibilité d'un triplé, de trois jumeaux. C'est la conclusion de la controverse, due probablement à Sabinus et Cassius, dont Paul nous a montré, pour ainsi dire, en prise directe le déroulement. Évidemment, on pourrait bien se demander s'il n'y a pas une contradiction vu que les naissances multiples, et a fortiori les triplés, étaient dans l'Antiquité et demeurent encore une rareté, la norme étant un seul accouchement. Selon les statistiques actuelles, la moyenne est d'environ une naissance multiple sur 2000. Mais nous ne devons pas oublier qu'il s'agit d'une décision juridique, donc une décision qui est guidée par une valeur. Quelle est la valeur? La valeur est celle indiquée au début du texte, à savoir la protection vigoureuse du sujet qui va naître et qui était déjà envisagé à l'époque des 12 tables. Par conséquent, les juristes préfèrent prendre en compte les naissances multiples. Parmi les multiples, on se concentre sur les triplés en écartant les accouchements plus nombreux, attestés tout au plus une ou deux fois. Le fait que les triplés coïncident avec l'un des mythes les plus ressentis à Rome, ceci aura sûrement contribué à accorder à cette décision le goût de la tradition qui fait autorité. En conclusion, dans cette page de Paul, le passé fait son apparition sous plusieurs formes. Il s'agit en premier lieu de la description d'un principe qui remonte probablement aux 12 tables, puis d'une question réglée, puis d'une question controversée dont il nous montre le procédé de décision. En quatrième lieu, le juriste se penche sur le monde externe pour obtenir des renseignements biologiques. Le passé n'est pas évoqué de façon neutre. Il joue un rôle argumentatif semblable aux stratégies de la rhétorique, comme nous l'avons vu. L'histoire n'est pas décisive en soi, elle entre dans un univers qui est régi par les principes juridiques de la protection du patrimoine de l'enfant à naître et par la règle qui veut qu'on choisisse la moyenne. Et voilà l'histoire en proie aux juristes. Tout fait historique est réduit à une forme élémentaire d'anecdote et toute explication en géométrie. Une fois de plus, à l'origine de cette méthode, vous trouverez l'antagonisme entre l'histoire qui devient et le droit qui s'y considère étant. Merci.